On va continuer. Alors, on est Sanhedrin Daftsadik Aleph Amoud Bet. On est au milieu de la page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est 20, la 20e ligne d'en haut. On compte en haut 20 lignes, on est là-bas. Alors, va amarle Antoninus le Rebbi. Antoninus, donc c'est Marc Aurèle, c'est l'empereur romain. Le copain de Rebbi, il a posé une question à Rebbi. Il avait un palais à Tibériade, la Gemara raconte. Il y avait un tunnel qui allait de son palais vers la yeshiva de Rebbi. Rebbi, il avait sa yeshiva à Tibériade. Et il venait étudier chez Rebbi, mais il le cachait devant ses propres gardes-corps. Il l'a caché, il ne voulait pas qu'il le sache. Il avait peur de ses propres troupes. Qu'est-ce qu'il cherchait un rabbin? Alors, Antonin se demandait Rebbi Neshama, mais Imatai Nitnaba Adam. L'âme appartient de quand? Elle a été donnée dans l'homme. Mishat Pekida ou Mishat Yetzira. Depuis la Pekida. Pekida, ça veut dire le moment de la conception. Est-ce que c'est au moment de la conception, au Mishat Yetzira, ou au moment de la création du corps, c'est-à-dire 40 jours plus tard? Yetzira Tavlad, toujours dans la Gemara, Yetzira Tavlad, ça dure 40 jours. Quand le fœtus il a 40 jours, il s'appelle Yetzira. C'est fini la Yetzira. Et depuis la conception jusqu'aux 40 jours, c'est avant la Yetzira, c'est pendant la Yetzira. Et Pkida, c'est la conception. Alors, à quel moment la neshama est donnée dans l'homme? Au moment de la Pkida ou au moment de la Yetzira? Amarlo, il lui a répondu, Mishaad Yetzira. Depuis la Yetzira, depuis les 40 jours. Amarlo, alors Antonin, il a demandé, Efshar chaticha shel basar, omede shlosha yamim belo melach, veino masrachat. La viande, on prend de la viande, est-ce qu'elle peut rester 3 jours sans sel, sans pourrir? Ça veut dire quoi? Un être humain ne pourrit pas. La viande, on égorge une vache, la viande pourrit, mais une vache vivante ne pourrit pas. Pourquoi? Parce qu'elle a un nefesh. Il a, c'est vivant. Quand une vache, elle vit, une vache ou un homme ou n'importe quel animal. Un animal qui vit, le fait qu'il y a un nefesh, eh bien, ça ne pourrit pas. Le nefesh, l'âme, ou même d'un animal, ça empêche que ça ne pourrit pas. Mais une fois que c'est mort, il n'y a pas d'âme dedans, la viande, elle pourrit. Maintenant, la question, le fœtus. Le fœtus ne pourrit pas les premiers 40 jours. Comment ça se fait? Les oreilles. La main, les pieds, eh ben l'âme est dedans. Le nefesh de la mère, elle est dans tous les membres de son corps. Tout ce qui appartient à la mère, il y a une âme dedans, donc ça pourrit pas, c'est normal. Mais le fœtus, c'est autre chose, et il ne pourrit pas, c'est intéressant. Donc, Antoninus, il dit, je pense qu'il y a le nefesh, il est déjà dedans. Le nefesh de l'enfant, il est déjà dedans. Sinon, ça aurait dû pourrir. Elle a Mishat Pekida. Donc, Antonin dit, moi, je pense que depuis la conception, il y a déjà une âme dedans. Amar Rebbi, Rebbi l'a dit, Davarze l'imdeni Antoninus. Eh bien, Rebbi l'a dit, mais ben Antonin, il m'a enseigné ça. Ou Mikramesayo. Et je peux faire un appui, je peux lui apporter un appui dans le verset. Shenemar ufkudatra, shamra ruchi. Le fait que tu as fait une pekida, tu as fait la conception, Shamra, c'est ça qui a protégé, qui a gardé Ruchi, mon esprit. Ruach, Ruach, Nefesh, Neshama, ce sont pas exactement la même chose, mais ça ressemble fortement. Il y a des Nefesh, Ruach, Neshama, c'est la partie qui vit, qui est dans le corps. C'est pas de la viande, c'est une partie viable. Maintenant, cette question que Rebbe a demandé, et Antonin aussi l'a demandé. Pourquoi il a demandé ça? Qu'est-ce qu'il avait besoin de savoir? Est-ce qu'il y a une neshama au moment de la conception ou est-ce qu'il y a une neshama seulement 40 jours après? Ça change quoi? Quoi il a besoin, c'est, en quoi ça l'a intéressé? En quoi c'est une, question comme ça? Je suis un philosophe. Un philosophe qui pose une question, il veut savoir. Un philosophe, il peut poser 100 000 questions, il peut demander 10 millions de questions. Quoi, il avait du temps, chez Rebbe, à demander 10 millions de questions, tout ce qui existe au monde. C'est plus logique de dire qu'il a demandé des choses qui le touchent quelque part personnellement. En tout cas, la Gemara nous raconte pas toutes les doutes philosophiques qui peuvent exister. La Gemara nous rapporte quelque chose qui a une certaine influence. Ça veut dire que probablement cette question a tracassé Antoninus. Ça le tracassait. Pourquoi se le tracassait à savoir à quel moment il y a l'âme? Alors, on va lire encore un morceau de Gemara. Le deuxième morceau de Gemara. Après, on va essayer de comprendre. Va amale Antoninus le Rebbe. Antoninus a dit à Rebbe. Mais matai yetzar hara sholet ba Adam. À quel moment le mauvais penchant domine l'homme? Mishat Yetzira, est-ce qu'au moment de la Yetzira, c'est-à-dire à partir de 40 jours, quand le fœtus il a 40 jours, c'est ce que ce moment-là que le Yetzira il prend l'emprise sur l'homme? Au Mishat Yetzira, ou au moment que le fœtus il sort, au moment de la naissance? Amarlo, Rebbe il a répondu, Mishat Yetzira, dès qu'il y a 40 jours, il y a un Yetzira. C'est-à-dire quoi le genre de Yetzira? C'est-à-dire quoi un Yetzira? Il faut servir Dieu avec le Yetzara et le Yetzara Tov. Yetzara ne veut pas dire forcément faire des Averot. Il faut servir Dieu avec Yetzara et Yetzara Tov. Yetzara veut dire égoïsme. Yetzara, c'est dire je travaille pour moi. Yetzara Tov, c'est pour Dieu. Yetzara, c'est pour moi. L'homme qui prend son corps, ses besoins, comme le principal de la vie. C'est celui Yetzara. Il faut servir avec les Yetzara à Dieu. Des fois, il faut être égoïste. Il faut se nourrir, malgré que ça fait plaisir de se nourrir. Mais il faut que le corps il est en bonne santé. Yetzara, c'est dire que l'homme, il cherche son bien. Alors ça, c'est le Yetzara. Et vous voulez savoir, Antoninus, à partir de quel moment ce Yetzara domine l'homme? Est-ce que c'est à partir des 40 jours hein, ou au moment de la naissance? Alors, Rabbi a répondu, Mishat Yetzira, depuis 40 jours. Rabbi n'a pas apporté de verset. Il dit comme ça une logique. Il lui propose une logique. Amarlo, alors Antoninus, il a dit, Imken, si c'est comme ça, Boet, Bemeye, Imo, Veyotse, alors il est capable de donner un coup de pied à sa mère et sortir. S'il est vulgaire, il existe des gens qui sont agressifs. Imaginons-nous un fœtus qui dans ses ADN et un yetzara d'agressivité. Alors, s'il est agressif, il frappe pour frapper. Alors, il peut donner un coup de pied et sortir. Mais nous voyons que normalement, les fœtus, au Rechem, ils font pas des histoires. Ils restent gentiment 9 mois et ils sortent après. Comment ça se fait qu'il ne fait pas la rébellion avant? Et la Mishat Yetzira. Donc, Antoninus, il dit, je dirais plutôt, c'est au moment qu'on naisse, là, le Yetzara vient. Et après, il ne peut plus donner des coups de pied. C'est trop tard. Une fois qu'il est sorti, il peut jouer avec les mains et les pieds et il ne peut plus rien faire de mal à sa mère. Amar Rebbe, il a dit, Davar zelim deini Antoninus, c'est bien, j'accepte ce qu'il dit Antoninus. Umik ramesayo. J'ai aussi un verset qui appuie la thèse de Antoninus. Je n'ai pas encore le texte, il dit, la petach chatat rovetz, à la porte, chatat, le péché rovetz est accroupi. À la porte, c'est-à-dire à la porte de l'utérus. Quand le fœtus y sort, alors le Yetzara, il attend, plaf, il se jette sur l'enfant, et à partir de maintenant, il lui donne les idées du Yetzara.
Voilà les deux questions qu'Anthony a demandées, les deux réponses de Rabbi et la rectification que chaque fois Rabbi a été d'accord avec Anthony. Mais la question qui se pose sur cette Gemara, pourquoi il s'intéresse tellement, Antoninos, à cette question, au point de demander à Rebbi? Alors, il se peut que dans cette Gemara, il se cache quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il se cache? Rashi rapporte dans le Chumash que la neshama de Antoninos était en vérité prévue depuis Rivka, quand Rivka elle était enceinte de deux enfants. Et les enfants, ils sont bousculés. Elle a consulté les prophètes. Elle est partie chez Shem. Shem, le prophète, il a dit à Rivka, il y a deux nations dans ton ventre. Et ces deux enfants, ces deux nations, depuis ton entrailles, ils sont différentes. Où l'homme et l'homme yémat, il y aura un conflit entre les deux. D'accord. Alors, Rashi rapporte, un c'est Yaakov, un c'est Esav, mais le texte, il dit Shne Goyim. Le texte, il n'écrit pas Goyim, Gimel, Vav, Yud, Mem. Mais le texte dans Chumash, il est Gimel, Yud, Yud, Mem. Goyim, on peut lire Geyim, deux aristocrates. Shem, il a dit, sache, il y a deux aristocrates qui se trouvent dans ton ventre. Qui c'est les deux aristocrates? Rebbi Antoninos. Comme ça, Rashi rapporte la Gemara. Ça veut dire que Esav et Yaakov auraient pu être des amis. Ils étaient différents, mais ils n'étaient pas obligés de se bagarrer. Ils n'étaient pas obligés de se battre. Mais ils ont un autre tempérament. Esav, c'est un tempérament de bagarreur. Yaakov, c'est un tempérament, Yosef Ohalim, il étudie, c'est le sage, et l'autre, c'est l'homme de l'État, c'est l'homme de la guerre. Et les deux, ils peuvent s'entendre. Rabbi Antoninus, ils se sont entendus merveilleusement. Antoninus, il était de la famille d'Esav, là, comme on nous raconte, un descendant. Les empereurs romains descendaient d'Esav. Et les Nessiim des Juifs descendaient de Yaakov. Ils auraient pu s'entendre bien. Malheureusement, il y avait des conflits dans la majorité des moments. Mais entre Rebbi et Antoninus, il n'y avait pas de conflit. Antoninus, il a fait les guerres. Et après qu'il a fait les guerres, il a pris beaucoup d'argent. Et tous les jours, il a porté un sac de l'or, de l'argent, des diamants qu'il a portés à Rebbi. Avec ça, Rebbi, il a nourri tout le collélonaire d'Israël. La Torah chez Baal-Péor, ils ont fait. Ils ont fini leur Mishnah de bien ficeler la Torah orale. Et ils ont fait de ça la Mishnah. Et pour ça, Rabbi a réuni tous les Chachmé Israël. Il les a nourris, logés, pas logés. Leur a payé ce qu'ils ont besoin. C'est un S. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi, il n'y avait pas un homme, le plus grand Chacham, et l'homme le plus riche, qui était le chef de la génération. Et c'était un S pour la Torah Shebichtav ou Torah Shebaalpé. Très bien. Maintenant, Antoninus, il a donc aidé à Rebbi. Donc, quand Rebbi a parlé avec Antoninus, toi, tu es un goy, mais tu cherches Dieu. Et je vais te dire que tu as un grand destin. Ton destin, il est inscrit dans la Torah Shnei Goyim Ubitner. À ce moment-là, sans doute, Antoninus, il a réfléchi. Donc, moi, je descendais Esav. Mais il y avait un conflit dans le ventre. C'est quoi le conflit? Que Esav, il cognait Yaakov. Il voulait le tuer. Alors il a dit, ça veut dire que depuis l'origine, chez mes ancêtres, il y a une violence déjà dans le ventre de la mère. Déjà dans le ventre. Alors il voulait savoir, est-ce que ma neshama, est-ce que j'avais une neshama, est-ce que Yaakov, ils avaient une neshama depuis la conception ou à partir de 40 jours? Pourquoi c'est important à savoir? Parce que la Gemara nous dit dans Maseret Nida, que les 9 mois que le fœtus est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. Il y a Malach qui lui enseigne la Torah. Un enfant juif, quand il naît, il a déjà la Torah dans sa tête. Seulement, il oublie. À la naissance, il oublie. Après, il faut réviser. Donc, Antoninus, s'il voulait savoir, Yaakov, ça veut dire que Yaakov, il était chez Rivka, il a étudié la Torah. Et qu'est-ce qu'il faisait à qu'est-ce qu'il faisait à Isav? Il
bousculait avec son pied.
Bon, c'est le Yetzarara. Donc il avait un Yetzarara terrible. Alors il n'a jamais voulu la Torah. Rashi raconte dans le Chumash. Et quand Rivka est passé à côté d'une maison de Torah, Yaakov voulait sortir. Donc, quand il est passé à côté d'une maison d'idolâtrie, et ça voulait sortir. Alors il a dit, donc mon ancêtre, il n'a jamais voulu la Torah, il n'a jamais étudié avec ce que le Malach, il a dit, cherchez à Vodazara. Alors ça lui faisait peur. Alors ça lui faisait peur, il a dit, mais c'est terrible. Mais les premiers 3 mois, c'est sûr qu'il n'a pas encore frappé avec les pieds. Vaïtrotsissou, ça c'était après 3 mois, ce n'est pas les premiers 3 mois. Peut-être j'ai étudié, peut-être Issaf il a étudié la Torah dans les premiers 3 mois, à condition qu'il a une neshama. Mais si la neshama vient qu'après, et Issaf il était vulgaire, il était bagarreur, alors mon ancêtre, il est depuis le début, il est bagarreur. Alors j'ai jamais profité de la Torah, alors ce sera très difficile à s'approcher au judaïsme. Donc il demandait Rabbi, dites-moi à quel moment la neshama vient à la conception ou à 40 jours. Rabbi l'a dit à 40 jours. Anthony Nessi l'a dit, alors comment il a survécu 40 jours sans âme, ça aurait dû pourrir. Peut-être c'est pas dans le sens gashmi pourrir, peut-être un deuxième sens dedans. Donc, Anthony s'est dit, moi je pense que la neshama elle est depuis la conception. Et Rabbi lui dit, oui, on peut trouver ça dans le verset ou beaucoup de trashama raouri. Donc, Antonino, s'il était content, il a dit d'accord. Donc, pendant les premiers 3 mois, j'avais un neshama et j'ai écouté la Torah que le Malachi l'a enseignée. Parce que tous les 9 mois, le Malachi l'enseigne. Alors, après 3 mois, Isav, il s'est intéressé pas tellement. Mais les premiers 3 mois, oui. Donc, depuis l'origine d'Isav, en vérité, il a capté la Torah. Donc, moi, Antonino, je peux me rapprocher du judaïsme. Parce que même quand on vient d'Isav, je l'ai capté à l'époque. Ça, c'était la première discussion. Après, Anthony nous a demandé une deuxième question. Le Yetzerara, le mauvais penchant, il arrive quand? Est-ce qu'il arrive à 40 jours à la Yetzira ou au moment qu'il, au moment de la naissance? C'est-à-dire, lui, s'est intéressé à savoir. Et ça, il a un Yetzerara spécial. Il était très vulgaire. Alors, il voulait savoir, cette vulgarité commençait vraiment à 40 jours déjà, ou ce qu'est à la naissance. Bon, il trottait, il bousculait, mais peut-être c'est une nature comme ça, mais c'est pas vraiment, il cherche une destruction totale. Il veut être le chef. Et quand un homme veut être le chef, il essaye de soumettre l'autre. Il voulait comprendre ces coups de pied qu'Esav lui donnait. Est-ce que ça vient de simplement une volonté de dominer son frère, ce genre, ou c'est un Yetzara absolu destructeur? Si c'est vraiment destructeur, si Esav pendant son état de fœtus, il était déjà un destructeur total, alors là, ça m'est très difficile à devenir un bon juif. Alors, Rabbi l'a dit, à 40 jours. Alors, il a dit, si c'est à 40 jours, comment ça se fait que pas tous les fœtusim, ils donnent des coups de pied et sortir? Alors, il aurait dû massacrer même sa mère. Peut-être il parlait de tous les fœtus, ou peut-être il parlait d'Eïsav, ou peut-être de tous les fœtus. Comment ça se fait qu'ils ne cherchent pas la destruction? Eux-mêmes aussi, si un enfant, après 40 jours, il fait le fou, jusqu'à il va liquider sa mère. Alors lui aussi, il finira. Mais ça existe, Yetzara. Il y a des nihilistes. Il y a des gens qui cherchent la... Ils veulent, ni eux, ni tout le monde, ils veulent faire sauter tout. Ça existe. Peut-être Esav, il était de ce genre. Mais s'il avait été de ce genre, alors dans ce cas-là, il aurait dû donner un coup à la mère, pas seulement au frère. Alors, je pense que ce Yetzara ne vient qu'après la naissance. Pas pendant la naissance, c'est pas tellement méchant. Pendant la naissance, c'est un genre, il veut être le chef. Alors, Rabbi, il était d'accord. Il a dit d'accord. En effet, la petachat a trouvé, tu as raison. L'autodestruction n'existait pas avant la naissance. Ça, on n'existait pas avant. C'est bien qu'après. Et donc, ça donnait de l'espoir à Antoninus de lui se rapprocher au judaïsme. Mais en vérité, il s'est rapproché. Tout ce qu'il dit, et le Rochalme, il dit qu'il se convertit à la fin. Il s'est converti à la fin. Antoninus est devenu un juif. Alors, Resh Lakish Rami. Resh Lakish, il a posé, on compte un prochain morceau Gemara. Resh Lakish Rami, il a posé une contradiction entre deux versets. Bam, hiver, ou piseyach. Bam, parmi eux, il se trouve hiver ou piseyach. Hiver, c'est quoi? Un aveugle. Upiseyach, un paralysé. Hara, veyoledet, yachdav. On parle de triatemitim. Quand il y a la résurrection des morts, les gens qui vont naître, si quelqu'un était aveugle, ou il était paralysé pendant sa vie, et c'est comme ça, il est niftar. Quand il y aura triatemitim, il aura son défaut, ou son corps, il sera parfait. Alors, il y en a un verset qui dit, bam, parmi ces gens-là, hiver, il y a des aveugles, ou puissiers, des paralysés, hara, violet, yachta, vivant tous naître ensemble pour triatemitim. Victive, mais il y a un autre verset qui dit, az, ce moment, ka'ayal, az yedalek, ka'ayal, piseyach. Il va sauter, il va danser comme un bélier, piseyach le paralysé. Betaron, le son ilem, elle va chanter la langue du muet. Kiniv kubamid barmaim, dans le désert, il y aura des trous où l'eau va jaillir en plein désert. Menachalim ba'arava, ça veut dire quoi? Qu'il y aura des choses tellement merveilleuses entre triatemitim que ceux qui étaient paralysés pendant sa vie, il va danser. Ceux qui étaient muets, il va chanter. La nature va être tellement merveilleuse en plein désert où c'est sec. Eh bien non, les jours vont jaillir. Donc il y a une contradiction. A Keitzad, à la Resh Lakish, il répond Omdin Bemouman. Ou mitrapim. Quand ils vont se lever, ils auront encore le défaut. Et après, il arrive la guérison. Pas qu'ils vont se lever sans le défaut. Ils vont se lever avec le défaut, et après, la refoua, elle intervient. C'est quoi la logique? C'est quoi, ben, mettre la logique? Pourquoi Dieu, il peut les faire revivre tout cet qu'un corps parfait? Alors, il y a une explication qui dit pour que les gens le reconnaissent. C'est-à-dire, les gens qui ont vécu avec lui, si le corps, il sera différemment, alors ses copains, sa famille ne vont pas le reconnaître. Mais tel qu'on l'a connu, ça veut dire le mémoire revienne. Quand il y aura triatemitim, les gens, ils vont se rappeler leur vie avant. Ils vont reconnaître qui est leur famille et leurs copains. Et quand il voit l'aveugle, il dit, ah oui, ça c'est l'aveugle, je le connaissais dans ma vie. Lui m'a connu, je le connais, c'est lui. Et après, Hachem va le guérir. Mais d'abord, il faut reconnaître. Oula Rami, Oula posait une autre question. Rami, c'est une contradiction. Ktiv, il est marqué dans le prophète, Bila havmavet la netzach, la mort, Bila. Il sera avalé, il sera disparu. La netzach à jamais. La mort sera abolie. Umacha Hashem dima me al kolpani. Mais Dieu va essuyer les larmes du tout visage. Quelles larmes? Les larmes, quand tu es un iftar, il y a des larmes. La mort amène des larmes. Mais dans la Mabba, dans l'époque de Mashiach en tout cas, il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de mort. Très bien. Uktiv. Mais un autre verset qui dit Ki anahar ben mea shana yamut. Anar, ben mea shana yamut, ce qui meurt, il est nahar, il est considéré comme un jeune. Le jeune, il meurt à 100 ans. Parce que le vieux, il meurt à 500 ans, à 600 ans. Aujourd'hui, quelqu'un qui a survécu meurt à 20 ans, on dit il est mort jeune. Parce que normalement, on vit 80, 90, 100 ans. Alors, à l'époque de Mashiach, ceux qui meurent à 100 ans, on dit, oh, le pauvre, il était tout jeune. Parce que normalement, on vivra 500, 600 ans. Mais Mais la mort existera à l'époque de Mashiach. Et le premier verset, il a dit, Bila Amavet la Netzach, Moach Hashem Dimim al Kolpanim, qu'il n'y aura plus de mort. Ben Meashana Yamut, Loye Misham, Od Ol Yamim. Oui, la Gemara nous répond, Lo Kashia, ce n'est pas une question. Kan Be Israël, Kan Be Ovdei Kochavim. Ça dépend le peuple juif ou les autres nations. Pour le peuple juif, la mort sera abolie. Et quand on dit le jeune il meurt à 100 ans, ben normalement on vit 500 ans, ça c'est les autres nations. Pour les autres nations, la mort n'est pas abolie. Et pour les juifs, la mort sera abolie. La Gemara demande, « Ovdei kochavim maibay hatam » Mais qu'est-ce qu'ils font les Ovdei kochavim? Eux, ils sont aussi à l'époque de Mashiach. Oui, la Gemara nous dit, bien sûr, « Anach cela, dirtiv bohu » Le texte dit bien, « Va'am duzarim » Les étrangers vont se lever, « Ur'ut sonchem » Ils vont faire paître vos brebis. « Ubenei nechar » Et les étrangers, « Ikarechem » Le kormechem » Ils vont être vos paysans, ceux qui vont vendanger. C'est-à-dire, le monde s'entendra bien, les Juifs et les nations, il n'y aura pas de conflit. Mais Hachem fait un cadeau au peuple juif de ne pas être obligé de perdre du temps en semant, en labourant, en travaillant. Il y aura d'autres, les nations, ils vont servir le peuple juif. Et le peuple juif fera Torah ou Mitzvot. Et donc, à l'époque de Mashiach, les goyim vont être là. Ils disparaîtront pas du tout. Maintenant, celui qui refuse, ah, ça c'est notre problème. En tout cas, les goyim qui sont prêts à servir les juifs, il n'y a pas de problème. Rav Chis de Rami, Rav Chis, il a posé une contradiction. Le texte, il dit, « Vechofra halvana, ubosha hachama, kimal hachem tzvakot. » La lune aura honte, le soleil il aura honte. Ils auront honte. Qui mal à Hashem Tzvakot, parce que c'est Dieu qui va régner. Quelqu'un qui a honte, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui a honte, il cache son visage. Il ne veut pas qu'on le regarde. Haman, ou Pnei Haman Chafou, ou Haman, il avait honte. Alors, après qu'il a tourné avec Mordechai, il a caché son visage. Le soleil, la lune, ils auront honte. Alors, donc ils vont se cacher, c'est-à-dire ils vont éclairer moins bien. Uktiv, mais l'autre verset dit, Vahaya or halvana korachama. La lumière de la lune va être plus puissante, comme la lumière du soleil. Vorachama, yeshivatayim kor shivatayamim. Le soleil va briller. Shivatayim, sept fois plus que or shivatayamim. Que la lumière des sept jours. La lumière des sept jours. Pendant la création du monde, il y avait une énergie qui a explosé, qui s'est mise en marche, qui est beaucoup plus puissante que ce que nous connaissons aujourd'hui, l'énergie qui existe aujourd'hui. Shivatayim, c'est-à-dire sept fois sept, 49 fois. Et Shivatayamim, la lumière de Shivatayamim était beaucoup plus. Sept fois 47, ça fait 343. C'est-à-dire que le soleil aujourd'hui, elle va briller. Il y aura une lumière 443 plus puissante. Il y aura une lumière beaucoup plus puissante. C'est-à-dire que la lumière ne va pas se cacher. Alors, le cacher, ce n'est pas une question. Ça dépend si c'est l'époque de Mashiach ou l'époque de l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, le soleil aura honte. Mais Mashiach, c'est avant l'Olam Haba. La Mashiach, c'est avant l'Olam Haba. Et là, le soleil sera beaucoup plus puissant. C'est-à-dire quoi, le soleil est beaucoup plus puissant? Alors, comment ça fonctionne? Comment on pourrait supporter? On va s'imaginer aujourd'hui, le soleil est sept fois plus fort qu'il est aujourd'hui. On ne pourra pas survivre. Peut-être nous aussi, nous allons être différentes. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait des changements de la nature. Dans quel sens est plus puissant la lumière? On ne sait pas. plus puissant vis-à-vis de la chaleur, on ne peut pas vivre. Plus puissant dans la lumière, on ne pourrait pas ouvrir les yeux. Plus puissant dans un autre sens, le soleil, la lune sont ici peut-être pas à prendre à la lettre. C'est une image. Chaque chose que nous voyons avec les yeux, il y a dedans un malach. Le soleil représente une lumière. Et cette lumière sera beaucoup plus puissante. Ça fait partie des secrets de Maaseh Bereshit. Quand on dit que pendant la création du monde, il y avait une autre lumière qui a géré le monde, qui était beaucoup plus puissante, que Dieu après il a caché. Quel genre de lumière? Est-ce que c'est la lumière, ce que nous appelons lumière? Ou est-ce que c'est une lumière rouhani? Est-ce que c'est une énergie? Ça, c'est le Rambam, il dit, la Mishnah dans Chagiga, Maaseh Bereshit, c'est un secret. Comment c'est la création du monde? Et ça fait partie des secrets de quel genre de lumière on parle. En tout cas, ce que la Gemara nous dit ici, qu'il y a une différence entre l'époque de Mashiach et l'époque d'Olam Haba. Alors donc, à l'époque d'Olam Haba, il y aura la lumière, elle va se cacher. À l'époque de Mashiach, la lumière sera beaucoup plus puissante. Mais c'est la lumière plus puissante, c'est un changement de la nature. Ça veut dire que celui-là, il pense, le Chacham, il pense, qu'à l'époque de Mashiach, il y aura des changements de nature. Mais le Shmuel d'Amar, mais selon Shmuel qui a dit, « En ben ramazé le mot de Mashiach et le shibud malchiyot bilvat » Selon l'avis de Shmuel, il n'y a pas de changement de la nature entre notre époque et l'époque de Mashiach. Le changement, c'est politique, c'est culturellement. Shibud malchiyot. Shibud malchiyot, le fait que les Juifs n'ont pas la liberté telle qu'elle, que le judaïsme n'est pas reconnu par les nations comme une bonne chose, que les Juifs ils doivent vivre et que les autres aussi doivent reconnaître. C'est ce qui a fait le Shibud Malchuyot, cette emprise des royaumes, de ne pas laisser le peuple juif avoir son propre terre, un État, et qu'on peut parler mal à ce champ d'un juif, c'est ça qu'on appelle Shibud Malchuyot. Ça va disparaître. Shibud Malchuyot n'aura pas. À l'époque des Mashiach, eh bien, les juifs, ils vont laisser, les goyim vont nous laisser tranquilles, ils vont nous respecter. Et aussi la religion, aussi les juifs, aussi leur souveraineté, il n'y aura plus personne qui va lever la main contre nous. Ça, c'est l'époque de Mashiach. Après, il y a culturellement, bien sûr, un changement. Ce respect des juifs, il vient par respect de la Torah, par respect de la parole de Dieu, par respect de ce que les juifs, ils ont reçu, la religion, et les goyim vont s'inspirer à cette époque. Mais vis-à-vis de la vie, la nature des choses ne changera pas. Ça veut dire, on vivra, l'air sera ici, il y aura des médicaments, il y aura des voitures, il y aura des avions, il y aura, si jamais on n'a pas encore abîmé et tout, il y aura des maisons comme chez nous, on vivra naturellement, il n'y aura pas de changement de nature. La nature est culturellement et politiquement. Alors d'après lui, tu ne peux pas dire que le soleil va briller plus fort. Le soleil va briller plus fort, ah, il faut un immense changement de la nature. Alors, le Shmuel d'Amar en benor lamazé. Suite d'après Shmuel, qu'il n'y a pas de différence entre au lamazé maintenant, le mot de Mashiach, le mot de Mashiach, et le chiffre de Malchuyot de Vlad. Alors, comment tu expliques une fois le soleil brille plus fort, une fois moins fort? L'okasha, ce n'est pas une question. Han be machane tzadikim, kan be machane shechina. Ça dépend dans le camp des tzadikim et ça dépend dans le camp de la shechina. Devant Dieu, eh bien, le soleil, elle va avoir honte. Le soleil va se cacher. Et devant le tzadikim, le soleil est plus fort. Alors ici, il faut dire le soleil est plus fort. On ne parle pas à l'époque de Mashiach. On parle dans Olam Haba. Dans l'époque de Mashiach, le soleil et la lune, ils seront comme maintenant. Mais Olam Haba, là, il y a eu des changements. Mais quel changement? Que le soleil est plus fort ou le soleil est moins fort? Alors là, il te dit, devant Dieu, eh bien, le soleil se fera tout petit. Et dans le camp des tzadikim, là, le soleil est le plus fort. Et à quoi ça sert aux tzadikim que le soleil est le plus fort? On dirait que c'est une image, c'est Rouhani. La lumière dans la tête, elle sera beaucoup plus forte. Clarté, une clarté de vision, de comprendre Dieu et le secret. Le Rambam me dit aussi à l'époque de Mashiach, à plus forte raison, Ramabha, c'est comprendre à Kadesh Baruch Hu, il y a un monde entier que nous ne savons pas encore qu'est-ce que c'est. C'est la surprise. Surprise de Olam Haba, qu'on verrait les choses telles qu'elles sont vraiment. Aujourd'hui, on est dans ce monde, on est dans l'obscurantisme. La Torah nous a donné des indications. Sachez qu'il y a un monde avec une lumière, avec du soleil merveilleux. 340 fois plus de lumière, vous allez voir dans l'Olam Haba. Rava Rami. Rava, il a posé une question, une contradiction. Ktiv, il est marqué, Ani Amit Vahaye. Moi, Amit. Moi, j'amène la mort sur les gens. Vahaye, et je vais le revivre. J'ai mis la main à la mort. Après, je vais le faire revivre. Tel que je l'ai tué, je vais le faire revivre. C'est-à-dire que si un homme, il n'entend pas sur une oreille pendant la mort, il va se lever, il n'entendra pas sur une oreille. Le Ktiv, il y a un autre verset, Machatsti, je frappe, vani erpa, et je vais guérir. Guérir, je veux dire que dans le monde futur, on sera en bonne santé. D'ailleurs, ça c'est une des choses, Ani Amit Vachaye, la Gemara va parler après, c'est encore un verset où on parle de Triat Amitim. Avant, les Goïms, ils ont demandé où on va trier Temtim de la Torah. On a déjà vu plusieurs sources. Une des sources, c'est ce verset dans Parshat Hazinu. Ani Amit Va'achaye. Moi, je tue et moi, je fais revivre. Qui je fais revivre? Celui que je tue. Donc, ça, c'est un problème pour trier Temtim. Seulement, la première lecture de Rava. Comme je tue, comme ça, je fais revivre. Donc, ceux qui meurent avec un défaut, ils veulent vivre avec un défaut. Il y a un autre verset, Machat Stivani Erpa, moi je frappe, je vais guérir. Guérir, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de défauts. Amar, il a dit, Amar Akadesh Baruch Hu, Mash Ani Meimit, Ani Mechaye. Ce que je tue, je le fais revivre, Vahadar, et après qui va vivre, Mash Machat Stivani Erpa. Ce que je le frappe et je lui ai fait un défaut, Ani Erpa. Eh bien, je vais le guérir. Donc, ça rejoint ce que Reish Lakish le dit avant. Il arrive après Triat Hametim et après, vous tous, ils vont être guéris. Donc, dans tous les gens qui souffraient, probablement, ce n'est pas seulement une souffrance physique. Probablement, c'est aussi une souffrance psychologique. Si quelqu'un a une souffrance psychologique, et toutes sortes dans le nefesh des problèmes, et ça Hachem il va guérir. Des fois il y a toutes sortes de choses, et dans l'âme là-bas ils vont être guéris. Tano Rabbanan, Ani Amit Vahaye. Il y a beaucoup de fois des gens qui demandent quel est le sens de ma vie. Il y a des gens qui souffrent toutes sortes de maux. Toutes sortes de choses qui tournent par an. Ça peut être physique, un petit problème, un grand problème, psychologique, un petit problème, un grand problème. Alors, les gens, ils demandent quel est le sens de ma vie. Mais ici, il est marqué dans l'Olam Haba, Kadosh Baruch Hu guérit. Des fois, la question n'est pas seulement le sens de la vie que la personne lui demande, se demande. Des fois, c'est la question que les gens autour demandent. Les autres personnes, quel est le sens de la vie de cette personne? Eh bien, dans l'âme là-bas, il y aura une guérison. Tanu Rabbanan, Ani Amit Vahaye. Moi, je vais tuer, je vais faire vivre. Yachol, j'aurais pu croire, j'étais mit à Be'echad, Vechaim Be'echad. Peut-être un, il va mourir, et l'autre, il va vivre. Mais ce n'est pas la même personne. Et derrière sur l'âme Noé, comme aujourd'hui, c'est la coutume. Aujourd'hui, à l'hôpital, il y a des gens qui meurent, et dans l'hôpital, il y a des gens qui naissent. Il y a tous les jours des naissances, il y a tous les jours des morts. Mais c'est deux personnes différentes. Il y en a un qui finit sa vie à 100 ans, et l'autre, le bébé, le premier jour, il vient au monde. Alors peut-être c'est ça le sens, Ani Amit Vahaye, c'est pas la même personne, c'est pas Triat Hametim. Talmud Lomar, quelqu'un il frappe et il guérit. Comment ça fonctionne? Quelqu'un leur donne un coup à l'autre. Aïe, vous saignez. Aïe, je vous amène chez le médecin. On va prendre des désinfectants. Je vais mettre un pansement. Donc, le pansement, il est sur cette blessure qu'on vient de faire. Donc, ma mechitza refoua be'echad. De la même façon, le coup et la guérison be'echad sur la même personne. Afmita v'chayim be'echad. Comme ça, la mort et la vie se rapportent sur la même personne. Mikan, tu vois, ici une réfutation, l'omrine pour ceux qui disent, ein triyat amiti min Torah. Ceux qui disent, ce n'est pas marqué dans la Torah, c'est des menteurs, ils nous cachent le texte. Le texte, il dit, il y a 8 triyat amiti. Tanya, Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir, il a dit, minayin le triyat et Ashira azot, ce chanson, la chaîne pour Dieu. Char, l'oné et là, yashir. Il n'est pas marqué. À ce moment-là, Char, il a chanté, ils ont chanté, Moshe et les Juifs. Et là, Yashir, ils chanteront. Az, ce moment-là, Yashir, ils chanteront dans le futur. Dans le futur, les Juifs, ils chanteront. Quel futur? Quand Moshe, ils ont chanté dans le passé. La Torah nous raconte ce qu'ils ont chanté quand ils ont sorti. Donc, il faut dire qu'en vérité, la Shira, c'est une chanson du futur. Mikan, les triyat emetim in Torah. Ils vont chanter ça quand il y aura triyat emetim. Moshe Rabbeinu niftar dans le désert. Et tous les Juifs, ils ont sorti avec lui, ils sont morts dans le désert. Et ils vont avoir triyat emetim. Et quand il y aura triyat emetim, ils vont chanter. Qu'est-ce qu'ils vont chanter? Une chanson qui est adaptée. Est-ce qu'ils vont chanter les mêmes chansons? Voilà, les Égyptiens, ils sont tombés dans la mer. Ou ça sera traduit autrement. Ou ça sera actualisé, ce chanson. Les Égyptiens, la mer, les chevaux, tout ça, ça sera réactualisé. Ça veut dire ils vont chanter qu'ils ont passé après la mort, on a passé ce qu'on a passé. Après Triat Emetim, on est sorti de l'obscurantisme de ce monde pour arriver à Olam Haba. Là-bas, on était en Égypte. Était dans l'obscurantisme d'Égypte. Après, la Neshama sera libérée de tous les maux. Et tout. Alors, tout ça, on va chanter après la gloire d'Hachem. Mais Yashir, en tout cas, Moshe et les Juifs, ils vont chanter dans le futur. Kayotse bedevarat Omer, le même phénomène, on trouve dans un autre verset. Az yivne Yeshua Mizbeach l'Hachem. Yeshua Benoun, il est rentré en Eretz Israël, il a gagné les guerres. Il a construit un Mizbéach pour louer Dieu, faire des sacrifices. Et le texte dit, Yivne Yoshua, il construira un Mizbéach l'Hachem. Baana l'onémar, elle a Yivne. Il n'est pas marqué, il a construit le Pshat. Il a construit. Mais c'est marqué, Yivne, il construira. Mais quand le triat Torah, alors ça veut dire aussi, c'est pour le futur, il construira. Donc, on voit que Yeshua Ben Nun et la génération qui rentre en Eretz Israël, ils vont être aussi présents à Triat Emetim. Elle est Me'ata. Alors, je te pose une kushya. Chaque fois quand il est marqué le mot Yivne, c'est le futur, ça veut dire à l'époque de Triat Emetim. Alors, comment ça se fait que le texte dit Az Yivne Shlomo Bama Lichmosh Shikutz Moav Achinami de Il venait un misbéach pour des autres, pour d'autres dieux. Ça m'arrive avec beaucoup de femmes du Proche-Orient et elles sont tombées après. Au début, elles étaient religieuses. Après, c'est revenu. L'Etzara d'avant est revenu. Elles ont fait Avodah Zarah. Le texte dit, Shlomo, Yivne. Il est allé construire Bama, un hôtel, Lichmosh, Shikutz Moav. Shikutz Moab, c'est-à-dire l'idole de Moab. L'idolâtrie, le dieu de Moab, on appelle Kemosh. Marqué dans le Chumash, Am Kemosh. Moab, Oilecha, Moab, Am Kemosh. Alors, dans Parashat Roukat, Kemosh, c'est le dieu de Moab. Et il a pris une Moabite, il a pris d'autres femmes. Alors, Shlomo, il a construit un Bama pour le dieu de Moab. Il est marqué Yivne. Achename de Yivne, est-ce que ici Yivne, tu vas dire dans le futur, quand tu auras Triat Emetim, Shlomo, il va faire un idole, mais c'est à l'époque, dans le futur, dans l'âme là-bas, il n'y aura pas d'Avodah Zarah. Donc tu es obligé de dire que Yivne, c'est le passé. Donc, du moment que Yivne, c'est une façon de parler, il construira. C'est un passé et futur. On raconte le futur dans une forme de passé. Le passé dans une forme du futur. Et là, non, là-bas, c'est différent. Mal et la vakatouf qui ilubana. En vérité, Shlomo n'a rien construit. Shlomo n'a jamais construit Avodah Zarah. Elle n'a jamais fait Avodah Zarah. C'est ses femmes. Ces femmes, elles l'ont fait. Mais Shlomo, il aurait pu leur dire, on ne fait pas ça. Madame, je vous ai marié, vous êtes devenu juif, maintenant on arrête. Elles ont dit, mais non, nous, on a besoin de ce culte. Alors, il se trouvait devant un problème, Shlomo. Quel problème? Peut-être il faut les divorcer. Elles ne sont plus religieuses. J'ai déjà divorcé. Bon, elles sont devenues juives. Elles étaient religieuses au début. Une fois qu'on est religieuse, on est religieuse. La conversion est valable. Mais après, un converti qui était religieux, c'était sérieux. Mais après, il abandonne. Alors, c'est comme un juif qui abandonne. Un juif qui abandonne la Torah en mitzvot, c'est pas bon. Mais pour un roi comme Shlomo, il aurait dû les divorcer. Parce que si les gens, sinon les gens, ils vont dire, bon, si le roi Shlomo, il garde, ça veut dire, c'est pas grave. Et les juifs, ils ont peut-être raisonné comme ça. Mais Shlomo les a pas renvoyés. Pourquoi il ne les a pas renvoyés? Probablement, il avait peur d'un incident diplomatique. Il s'est marié avec des princesses, la fille de Paro en première. Il s'est marié avec la fille de Paro en première, pourquoi? Pour montrer une amitié avec l'Égypte, pour dire que les Juifs, on ne veut pas vous faire du mal. Et tous les intelligentsias d'Égypte sont venus à Yerushalayim. Shlomo leur a enseigné Yirat Shamayim, Emouna, Chochma, tout le Proche-Orient est venu écouter la Torah. La Torah, ça veut dire la chokhma de divinité, sans faire les 613 mitzvot, ce qu'un goy a besoin de savoir. Tout le monde est venu écouter chokhma de Shlomo. Il y a un livre qui s'appelle Mishlé. Mishlé, Amelach Shlomo. C'est du moussard d'Irat Shamaim. Il l'a dit quand les goyim étaient présents. Kohelet, où il explique que la richesse et le pouvoir et l'honneur que les gens y cherchent, c'est nul et non avenu. Il a enseigné ça pendant Sukkot, pendant que les goyim étaient présents. Et les goyim, ils ont écouté, ils ont transporté les paroles de Shlomo. La sagesse au monde, comme il dit le Rambam, comme il dit Rabbi Yehuda Lévi dans le Kuzari, vient beaucoup, vient de Shlomo, malgré qu'après, ils ne l'ont pas dit en notre nom. Ils ont fait semblant qu'eux, ils ont trouvé. Mais ils ont pris, comme ça dit Yehuda Lévi, ils ont pris de Shlomo Melech, ça s'est éparpillé. Après, ils ont eu leur propre Chachamim. Bon, il n'a pas mis, Shlomo Melech n'a pas mis un copyright sur la Torah. Moshe Rabbeinu a mis un copyright. Mais Shlomo n'a pas mis de copyright. Il a dit, vous avez le droit de prendre. Mais ça aurait été plus gentil de le dire en nom de Shlomo. Ça aurait été plus gentil. Quand on prend quelque chose de l'autre, eh bien, Kola Omer d'abord Beshem Omro, mais Bikulolam, c'est correct de dire ça. Ça appartient aux Juifs. Ça, c'est bien de roi juif. Ça vient de la sagesse juive. Et d'où Shlomo Melech, il savait ses chokhmot. Ok, dans le rêve, Hashem, il le dit, je te donne la chokhma, je te déverse la chokhma. Il y a un Ramban dans son introduction du Chumash. Il dit quelque chose de très étonnant. Mais comme ça, il écrit le Ramban. Que la chokhma de Shlomo, Vaidaber et Laïtsim, Vaalavanim, il parlait des pierres et des arbres, c'est-à-dire il a analysé la botanique, il a analysé plein de choses, il trouvait la source dans la Torah. Comment il trouve dans la Torah? Dans la Torah n'est pas un livre de médecine, ni un livre de mathématiques, ni un livre de physique. Oui, dans la lecture telle que nous la lisons, et nous on comprend la Torah. La Torah, ce n'est pas un livre de science. C'est vrai. Mais la Ramban, il dit qu'il y a d'autres façons de lire le Chumash. Il y a des, toutes sortes, il y a toutes sortes de lectures. Et dans d'autres lectures, il se trouve des sciences dedans. Comme ça, il dit la Ramban. On a demandé du Chumash. Et il dit que Shlomo HaMelech, il connaissait ces façons-là. Mais si c'est comme le Rabban est dit ou pas comme le Rabban est dit, Hachem, il a ouvert la tête de Shlomo, il a mis la chokhma dedans, ça ne change pas. En tout cas, il a enseigné à tout le monde. Maintenant, toute cette chokhma que les goyim, ils ont entendu de Shlomo. Shlomo, il avait peur que s'il va divorcer la fille de Paro, il va divorcer la princesse de Moab, etc. Alors, ça donne un krach, ça donne un incident diplomatique. Et il a divorcé ma fille, le roi de tout le Proche-Orient. Chaque roi a sa fille, il donnait à Shlomo. Il a renvoyé ma fille. Ah, tu cherches la guerre? Et c'est pas bon. Au Moyen-Âge, en Europe, la coutume a été souvent qu'un roi d'un pays, avec un roi d'un autre pays, ils marient leurs enfants ensemble. C'est le prince héritier des Allemands, des Français, des Russes. Il y avait Napoléon, il a pris des gendres en Autriche, etc. Partout. Le roi du Suède, il a pris une. La prince héritière d'Allemagne ou le contraire. C'était très à la mode. Pourquoi? Pour diplomatiquement, politiquement, c'est bien. Comme ça, on est la même famille, on s'entend. Comme ça, on ne se fait pas des guerres. Alors là, c'est Shlomo, il ne voulait pas divorcer. Mais la Torah était makpid. La Torah nous dit, Shlomo, il a construit. Az Yivne Shlomo, c'est lui qui les a construits. Le mot Yivne, elle ne dit pas, il a construit, il construira. Le fait qu'il a laissé ses femmes construire, il aurait pas dû les laisser. Alors, la Torah considère comme s'il l'aurait fait. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, minay le tri et emitim min haTorah. D'où on va tri et emitim de la Torah? Ici, la Torah, il faut prendre dans le sens large. Des fois, la Torah, c'est dire les cinq livres de Moshe. Des fois, la Torah veut dire la Torah orale qui interprète les cinq livres de Moshe. Des fois, la Torah inclut le Tanakh, il inclut les Ktuvim. Ici, minay le tri et emitim min haTorah. Ici, la Torah, c'est dans le sens global. Je n'ai marre car il est dit, Ashrei Yoshevetecha, Od Yahalelu Chasela. Alors, ça, c'est David Amelech, il a dit. Pourquoi on l'appelle sa Torah? Parce que la Gemara nous dit, Mesechet Barachot, que tout ce qui est marqué dans les Ktuvim, tous les Tehilim qui sont marqués dans les Ktuvim, ils ont aussi leur source dans la Torah de Moshe. Ils étaient donnés à Har Sinai. Ashrei Yoshevetecha, heureux ceux qui habitent dans ta maison, les habitants de ta maison. C'est quoi ta maison? La maison, c'est le Beth Amikdash. La maison, c'est le Beth Knesset, le Beth Amidrash, la maison de Dieu. Od Yahalelu Chasela, encore plus. Yahalelu Cha, ils vantent de louanges, c'est là jamais. Hilelu Cha, l'onemar, et là, Yahalelu Cha. Mais quand les triètes et Torah, ce qui vient aujourd'hui au Beth Amikdash, ce qui vient aujourd'hui au Beth Knesset, ceux qui prient Dieu aujourd'hui, ceux qui sont les serviteurs de Dieu aujourd'hui, Od, encore, dans le futur, il y a Alléluia. Dans le futur, ils aussi donneront des louanges. C'est quoi le futur? C'est l'Olam Abba. Vam Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi dit, « Kola omer shira ba olam azeh, zuche ve omra l'Olam Abba. » Ce qui dit la shira, le chanson dans ce monde, il a le mérite de le dire dans le monde futur. Ça veut dire quoi? Et ce qui dit pas la shira dans ce monde, il ne dira pas dans l'autre monde. L'autre monde, on chantera Dieu à condition que tu as appris ça aujourd'hui. Ce monde, l'Olam Hazeh, est là pour apprendre les choses. Si tu le fais maintenant, tu pourras le faire après. Si tu n'es pas préparé, tu n'auras pas après. C'est ça la Mishnah dans Pirkei Avot, on avait vu. Hatkenatz b'chabe prosdor, kadesh tikanes le traklin. Ce monde ressemble comme un prosdor, ce monde, c'est la antichambre de l'Olam Haba. Il faut se préparer pour l'Olam Hazeh, que des chitikanes, l'Olam Haba. La Gemara nous dit, Miche, chin be'erev Shabbat, yuchal be'Shabbat, ceux qui préparent erev Shabbat, il a quoi manger Shabbat? La Gemara nous dit, Ve'echin atashayevi, ils ont eu la manne vendredi. Ve'echin, ou préparez, et atashayevi, ce que vous apportez du champ. Si vous préparez vendredi, vous avez quand même mangé Shabbat. Ceux qui ne préparent pas, Shabbat, on ne peut pas préparer. Ça, c'est le dîne de Moukhtse. Une fois, comment il s'appelle le français? Comment il s'appelait le philosophe français? J'ai oublié son nom. Ceux qui luttaient contre l'extrémisme. Comment il s'appelait? Voltaire. Voltaire, il se moquait des enfants juifs. Il a dit, les enfants juifs, ils passent leur jeunesse en train de discuter sur un œuf qui qui est né le Yom Tov, leur jour de fête, si on peut le consommer, on ne peut pas le consommer. Les enfants à 8 ans, 6 ans, ils rentrent au cheder, on discute, Beitza Shenol de Yom Tov. Voltaire, comme il se moquait du judaïsme à Da jusqu'à Z, il a dit, ils passent leur jeunesse de discuter sur un œuf qui est né Yom Tov. Il a dit, Voltaire, il avait raison. Les enfants juifs, leur étude, c'est au sujet d'un œuf qui est né Yom Tov, s'il est consommable ou pas. Parce que la Gemara nous raconte le secret de l'œuf qui est né Yom Tov. S'il est né avant Yom Tov, il est préparé. La souda de Yom Tov, il faut la préparer. Si l'œuf il est né Erev Yom Tov, il est mouchan pour Yom Tov, tu peux manger. Mais s'il est né Yom Tov, la souda de Yom Tov qui vient Yom Tov, elle n'était pas préparée hier. C'est le sens de la vie des Juifs. Oui, oui. Les Juifs, depuis qu'on est des enfants, on nous met dans la tête, dans ce monde-là, on prépare le monde futur. Tu prépares ici quoi manger le Yom Tov, la fête, c'est l'autre monde, la fête. Et dans ce monde-là, on prépare la nourriture pour l'autre fête. Et si on ne prépare pas avant, on veut arriver dans l'autre monde, on n'a pas préparé, on n'a pas quoi manger. Il avait raison, M. Voltaire, il a bien vu. Alors, mais pas comme lui l'a compris. Kola Omer Shira Baolom Hazeh, chacun qui dit la Shira dans ce monde, Shira, ce n'est pas seulement la Shira de la mer, c'est chanter la gloire de Dieu, être émerveillé, aimer Dieu, être fasciné et donner des louanges à Dieu, ce qu'il fait dans ce monde, Zoché, il aura le mérite, l'Omra, il va le dire le Lama Ba dans le monde futur, cinéma, comme le texte il dit. À demain, Bézat Hashem.